Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure d'un épisode formidable, je le dis tout de suite, du podcast des maternelles. Le thème du podcast des maternelles, c'est grandir avec des parents célèbres. Et notre invitée qui va en parler s'appelle Sophie Tapie, fille de Bernard Tapie, vous vous en êtes bien douté. Donc on va entendre son témoignage à Sophie Tapie, vous imaginez être la fille d'une personnalité si forte comme celle de Bernard Tapie, comment on se construit dans l'ombre d'un tel papa ou d'une telle maman. On va entendre ce témoignage et puis nous serons avec une psy qui nous donnera des grilles de lecture. Elle s'appelle Juliette. Allez, c'est parti.
Grandit quand on a une mère ou un père qui est célèbre, comment est-ce qu'on peut mener une vie de famille normale où la notoriété vient tout absorber. Bonjour Sophie Tapie,
merci
d'être
me
avec
savoir.
Nous. Vous avez 34 ans, vous êtes musicienne et comédienne, bon, tout le monde vous connaît de toute façon. Et par ailleurs, vous êtes la petite dernière des enfants de Bernard Tapie, votre papa que tout le monde connaît voilà, en France, et qui nous a quittés malheureusement le 3 octobre dernier. Merci de revenir avec nous sur votre enfance, parce que c'est vrai que ça pose question. On se dit, tiens, qu'est-ce qui, dans la notoriété de Bernard Tapie, a conditionné la vie de femme de Sophie Tapie? Voilà, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, à partir de quel moment, dans votre enfance, vous vous êtes dit, tiens, j'ai un père célèbre? À quel moment vous en avez conscience?
Je pense qu'en fait, j'ai jamais pris conscience, dans le sens où, dès que j'étais petite, il était déjà tellement médiatisé, tellement connu, que c'était quelque chose de complètement normal pour moi. Il y avait un aspect de ma vie de tous les jours qui était que tout le monde me connaissait. Et dans ma tête d'enfant, c'était quelque chose de complètement normal. Quand je vivais à Marseille, j'avais l'impression qu'on avait énormément de cousins, en fait.
Mmh. Oui, c'est plutôt bienveillant quand on venait super vous voir au restaurant, etc. Mais on lui demandait des autographes, on faisait des photos avec lui.
À l'époque, il n'y avait pas de portable, donc il n'y avait pas toute cette frénésie des photos, un selfie et tout. Mais les gens étaient très respectueux à ce moment-là. Donc c'était vraiment ceux qui ne pouvaient pas, entre guillemets, se retenir, ils allaient le voir. Mais sinon, les gens nous laissaient vraiment notre espace, quoi.
Oui, à Marseille, c'était la famille partout, quoi, en fait.
Ouais.
Donc c'est de bons souvenirs à l'époque Marseille pour vous.
C'est la plus belle période de mon enfance à Marseille. Ouais.
Et il y avait des paparazzi dans tout ça?
Encore une fois, pour moi, je ne sais pas, parce que c'est d'un point de vue extérieur, ça peut paraître pour une vie qui n'est pas normale. Mais pour moi, il n'y avait rien d'anormal parce que ça a été ma normalité, en fait. Mmh. Donc, j'arrive pas à me souvenir s'il y avait quelque chose, genre des paparazzi, des gens qui nous suivaient et tout, parce que moi, j'ai eu l'impression d'avoir une enfance complètement normale.
C'était quel type de papa, Bernard Tapie? Il faisait les goûters d'anniversaire? Il allait aux réunions parents-prof?
Non. Non.
Il avait quelques trucs à faire quand même aussi.
Voilà, disons qu'il était très occupé à ce moment-là. En revanche, quand j'avais fini mes goûters d'anniversaire, il y avait toujours un moment où nous, on faisait un goûter en famille. Mmh. Et là, il était tout le temps là. C'était un papa extrêmement aimant, très démonstratif. Il n'y avait pas de pudeur entre nous. Il n'y a pas de pudeur entre mes frères et sœurs. On a vraiment une relation assez naturelle.
Vous êtes un peu un clan. Il a réussi à créer ça.
Ouais.
Ça, c'est lui qui a créé ça, vous pensez?
Je pense que ce sont mes deux parents, pas lui uniquement, mais ma mère a énormément contribué, surtout que ma mère étant la deuxième femme de mon père, elle a élevé mon demi-frère et ma demi-sœur aussi. Et je pense que les deux ont contribué à ce que vraiment on forme une meute, quoi.
Mais c'était pas difficile à porter le nom de Tapie quand même, parce que c'est une figure tellement emblématique depuis toujours. Est-ce qu'à l'école, quand vous étiez petite ou à l'adolescence, ça a pu vous poser des problèmes?
Petite, quand je suis, quand je suis revenue de Marseille, effectivement, il y a eu quand j'ai recommencé à être scolarisée à Paris, j'ai eu du harcèlement à l'école, de verbal, physique même parfois.
Mais c'était quoi? On vous disait quoi?
Mais malheureusement, c'est tellement pas la faute des
gosses. Toujours par rapport à votre père.
Toujours par rapport à mon père. Mais rétrospectivement, quand je regarde en arrière, je leur en veux pas, parce que c'est jamais la faute des enfants. En fait, c'est la bêtise des parents. Mmh. Et si je devais refaire, je ferais exactement la même chose, parce que je pense que le fait d'être un peu secoué un peu tôt, ça nous forme pour être prêt à affronter la vie, qui est pas quelque chose de facile. Et je m'estime heureuse d'avoir vécu des choses assez fortes étant petite. Parce que je vois autour de moi les gens qui n'ont jamais rien vécu et qui commencent à s'approcher de mon âge à moi. J'ai la sensation qu'ils sont très vite débordés, très vite... ils savent pas trop comment faire. Et du coup, je regrette pas du tout ce qui s'est passé dans mon enfance, quoi.
Ouais, vous avez l'impression que ça vous a endurci, quoi.
Ouais, énormément.
Et est-ce que, à l'inverse, porter le nom de tapis, ça peut parfois aider à ouvrir des portes? Est-ce que ça vous a parfois donné des passe-droits?
Ça en ouvre autant que ça en ferme.
Ouais.
Disons que... Mais encore une fois, tous les côtés négatifs de s'appeler tapis, par exemple, voilà, c'est compliqué de passer en radio, parce qu'ils n'aiment pas dire le nom. Surtout dans le milieu musical. C'est vraiment le milieu dans lequel je vois qu'il y a encore aujourd'hui, même si j'ai tracé ma route, j'ai fait mon chemin, j'écris des chansons pour moi, pour les autres, je sens qu'il y a encore ce truc de « Oh putain, ouais. Si elle avait un autre nom, ce serait mieux, quoi ».
Vous n'avez jamais envisagé de le changer, d'ailleurs, de prendre un pseudo?
Si, mais même là, dernièrement, mais ce n'est pas possible, en fait, parce que, premièrement, je trouve que ce serait se foutre de la gueule des gens, clairement. Ça ne fait pas 2 mois que je fais ce métier, j'ai fait des films, j'ai fait de la télé, et les gens me connaissent sous ce nom. Mmh. Et puis, les gens qui me suivent depuis un certain moment, je pense qu'ils se sont construits avec moi et avec les travers de ce nom de famille, et je pense qu'ils seraient déçus que je me travestisse et que je prenne un autre nom. Je me vois pas aujourd'hui changer de nom. Mm-hmm. Je suis mariée, mais j'ai pas changé de nom.
Oui.
Je garde mon nom. J'ai trop galéré à pouvoir le porter. Maintenant, je le garde, quoi.
Oui, et puis vous en êtes fière, quand même.
Je suis super fière.
Bah, oui.
Parce que ça raconte une histoire exceptionnelle, mm-hmm. d'un parcours de vie exceptionnel, d'un homme exceptionnel. Je n'étais pas du tout fan de mon père. Mais et puis oui, évidemment, parfois c'est bien aussi quand on mm-hmm. s'appelle tapis, qu'on vit à Marseille. C'est sympa, il n'y a plus de place au restaurant. Et puis on dirait.
Il y a des tables qui se rajoutent.
Non, mais c'est fou, on dirait qu'ils nous gardent une table au cas où, tout le temps, dans n'importe quel restaurant.
Ouais, donc ça, c'est quand même assez agréable.
Bien sûr.
Après, et c'est vrai que dans la vie de votre père, il y a eu des accusations, il y a eu des procès. Enfin, il était finalement à la une des JT quasiment tous les soirs.
Ouais.
Comment est-ce que vous avez vécu ça en tant que petite fille? Et on vous a protégé un petit peu de ça? Est-ce que vous compreniez ce qui se passait? Parce que vous deviez le voir aussi un peu stressé, même si c'était quand même un...
Enfin, non,
je ne connaissais pas, mais il avait l'air d'être tellement blindé.
Non, du coup, il nous a appris, même à nous, à ne pas montrer... on est plutôt du genre à partager nos émotions positives et à garder les négatifs pour nous-mêmes. Et moi, je sais pas... Malheureusement, j'aurais adoré naître un peu plus tôt, donc je suis la dernière d'une fratrie de 4, et j'aurais voulu vivre cette période de tapis-mania, parce que moi, je ne l'ai pas connue. En fait, moi, je suis née, ça a commencé un peu à
vaciller, quoi.
Voilà. Mmh. Et du coup, je n'ai pas connu cette ferveur autour de lui. Donc, heureusement, y a les archives, donc ça, c'est génial. Et j'en parlais, là, hier soir. Je disais, c'est formidable parce que les gens, quand ils perdent quelqu'un, ils ont ce manque, ce vide horrible, où on a l'impression que le sol s'ouvre en deux et qu'on ne va plus jamais retrouver la personne. Et dans notre cas, c'est extraordinaire parce qu'on a des images de lui d'archives de ses 20 ans jusqu'à ses 78 ans. Quoi. Mmh. Donc mes enfants, je n'ai pas encore d'enfants, j'ai 4 enfants à 4 pattes, ce sont 4 chiens, que je considère comme mes enfants. Mais je trouve ça génial parce que le jour où j'ai des enfants, ils auront une trace, une vraie trace laissée par mon père.
Oui, vous allez pouvoir transmettre en fait. Il a fait tous les métiers.
C'est
donc,
ça, à part danseuse classique et jockey, je dis tout le temps ça. Sinon, il a à peu près tout fait.
Oui, parce qu'il a chanté, il a été acteur, il a présenté des émissions, ouais, il était homme d'affaires.
Il a vraiment tout fait et je suis super contente et j'ai énormément de chance parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir autant d'archives de lui, quoi.
Et comment? À qui le dites-vous? Votre papa, il a fait 8 mois de prison. Vous aviez genre 6-7 ans.
8 ans.
8 ans. Mm. Comment est-ce que, justement, vous en parliez à la maison? Est-ce que là aussi, vous avez compris ce qui se passait?
Oui, mes parents... Enfin, ma mère avait verbalisé le fait que voilà, il était parti pendant un moment, mais qu'il allait revenir. J'étais allée le voir, évidemment, à l'époque où il était à Luynes. Et je crois que je comprenais pas trop. Je mentirais si je disais que ça a traumatisé ma vie. Non. J'étais plus dans l'incompréhension. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va le voir là? Pourquoi est-ce qu'on a ma mère qui regarde la pendule toutes les 5 minutes en se disant oh, il reste que 20 minutes. Donc, moi, j'étais en train de dessiner dans mon coin mes petits trucs. Puis, je comprenais pas qu'il fallait que j'interagisse avec lui tout de suite pour qu'il profite de moi tout de suite. Donc moi, j'ai été très dans mon coin, je suis poisson, donc je suis un peu dans mon monde, quoi. Voilà, et je pense que je ne me rendais pas compte que pour lui, c'était important que je sois hyper concentrée sur lui à ce moment-là. Donc, je pense que je comprenais pas tout, quoi. Mmh. Mais de toute façon, à 7 ans, on comprend pas tout. Mais je pense qu'on ressent plus qu'on ne comprend. Les enfants, j'ai l'impression que ce sont des éponges et qu'ils ont énormément de ressentis plus que de
oui,
d'essayer
c'est
de comprendre les choses.
Voilà,
exactement. Ouais.
Vous diriez quoi, si vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous avez partagé avec votre père pendant votre enfance et votre adolescence? Parce qu'il était ultra occupé, il y a eu effectivement des affaires qui ont dû un petit peu secouer tout le monde, toute la famille.
J'ai partagé une personnalité, parce qu'on était un peu, on est un peu, même aujourd'hui, parce que même s'il n'est plus, sa personnalité, elle reste dans les mémoires. J'ai partagé beaucoup, notamment sur tout le milieu artistique. Il m'a énormément aidée dans mes choix. J'écrivais des chansons. Alors bon, à 16 ans, 15 ans, ce n'était pas les meilleures que j'ai écrites, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais c'était toujours le premier à vouloir écouter. Pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi cet instrument-là? Et pourquoi cet arrangement-là? Donc on a beaucoup partagé sur le point artistique. C'est vraiment ce qui m'a le plus... et toute notre vie d'ailleurs. Parce que derrière, j'ai fait du théâtre avec lui. C'était drôle parce qu'il était fier de raconter à tout le monde que c'était moi qui l'avais fait venir sur cette pièce. Comme s'il était obligé de justifier le fait qu'il avait joué avec moi, que c'était pas lui qui m'avait fait venir dans cette pièce, mais que c'était le contraire. Et à chaque fois, je disais, mais t'es pas obligé de raconter ça. Mais si, je veux que les gens comprennent, qu'ils sachent et tout. Il était trop mignon.
Comment vous allez aujourd'hui? Parce que c'est vrai que depuis que votre père est mort, la famille s'est très peu exprimée, on comprend bien. Est-ce que ça va? Parce que c'est perdre un père, c'est déjà atroce.
Moi, ça va toujours.
Je vous ai transmis ça.
Ouais.
Parce qu'on a eu l'impression toute sa vie que de toute façon, il tenait debout. Quoi. On l'a rarement vu vaciller.
Bien sûr. Père. Et je crois que c'est le plus bel héritage qui m'est laissé. C'est la positivité. Moi, je vois toujours le verre, mais toujours à moitié plein. S'il nous arrive une galère, je me dis que c'est forcément qu'il y a une raison. Et puis je pense qu'on se relève à peu près de tout. Mais moi, je vais toujours bien. Quoi qu'il arrive, je vais toujours bien.
Bonjour Juliette Allais, merci d'être dans la maison des maternelles. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute et auteur notamment de « Vivre à l'endroit », votre dernier ouvrage qui vient de paraître chez Erol. Qu'est-ce que ça change dans la construction d'un enfant, au fond, d'avoir un parent célèbre? Est-ce que ça change quelque chose déjà?
Oui, nécessairement, parce que en fait, c'est un peu, si vous voulez, comme s'il y avait un personnage supplémentaire dans la famille, avec les parents, la fratrie. Et tout dépend en fait de la place qu'on va donner à ce personnage. Est-ce qu'on va le mettre au centre? Comment on va en parler? Est-ce que ça va nous faire sentir supérieurs? Comment on va en parler à l'enfant? Comment il va se construire? Quelle place ça va prendre pour les uns et les autres? Ça dépend vraiment. Chaque histoire est singulière.
Vu de l'extérieur, on a toujours tendance à penser que les enfants vont se comparer du coup au parcours de leurs parents. On a reçu une question en vidéo pour vous de Lorna. Regardez.
D'accord. La maison des maternelles, je me disais que ça devait être difficile pour les enfants de célébrités d'être toujours comparés à ses parents. Comment peuvent-ils gérer ça? Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Alors, ça doit être encore plus difficile pour les frères de Sophie Tapic, pour elle, parce que c'est la petite dernière.
Oui, puis ça dépend vraiment du contexte. Hein. Est-ce qu'on crée de la rivalité? Est-ce que le parent est vraiment mis en place d'icône? Ou est-ce qu'il fait juste un job particulier qu'il rend visible aux yeux de la société? Finalement, quelle place on va donner à la célébrité? Est-ce qu'il y aura de la place pour l'enfant, pour qu'il puisse se construire, avoir sa propre place? C'est tout ça qui va faire la différence. Parfois, les enfants sont effectivement écrasés par le poids d'un parent célèbre. Mais là, on voit bien avec Sophie à quel point, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Mmh. Les enfants ont eu leur place. Le père était une figure très charismatique. Mais au fond, elle a l'air d'avoir trouvé ça plutôt très positif et formidable.
On sent qu'elle est surtout très fière.
Oui, elle est fière de son père. Et on voit que ça ne lui pose pas de problème. Enfin, donc, qu'elle vit ça très bien. Mmh. Donc, je pense que ça dépend vraiment des contextes. Il faut faire attention.
Amanda nous dit, on voit souvent les filles et fils d'eux choisir le même métier que leurs parents, mais souvent avec moins de succès. Est-ce qu'être fille ou fils d'eux, c'est un handicap pour réussir?
Pas nécessairement, hein. Ça peut ouvrir des portes, hein. On peut avoir un réseau, parfois on peut être attendu au tournant, Donc je pense
là, ça
que
ouvre la porte, mais après, le chemin est
le chemin est, pas n'est, plus n'est pas nécessairement tout à fait aussi simple que ça. Il va falloir faire ses preuves, mais je pense que c'est... Oui, là aussi, ça dépend de la nature de l'enfant, de la manière dont il a vu son parent devenir célèbre, dont il a intégré le chemin que ça pouvait être. Donc, à chaque fois, c'est toute une histoire différente, avec du bon et du plus difficile.
Bien sûr. Ouais. Alice vous demande s'il faut protéger son enfant de la célébrité, et si oui, de quelle manière ?
Je ne pense pas qu'il faille protéger les enfants, parce qu'au fond, comme on le voit très bien dans le reportage avec Sophie, ça peut au contraire les aider à se forger une identité, à prendre la vie comme un défi. Donc je pense qu'il faut juste le replacer dans le réel, pouvoir en parler pour que l'enfant sente bien que ça fait partie du réel et ne pas lui cacher. Mais après tout, c'est un élément de la vie comme un autre. Donc il n'y a pas à surprotéger les enfants, mais juste peut-être à leur donner une image d'un parent cohérent qui assume sa célébrité et qui n'en fait pas tout un plat et qui surtout ne confond pas célébrité et supériorité, qui reste juste tout à fait humain et normal. Et ça, c'est la meilleure des protections, je dirais.
Olivier nous dit, on le voit dans l'histoire de Sophie Tapie, son père a dû faire face à de nombreuses accusations, a souvent été propulsé à la une de l'actualité. Ouais. Comment les parents doivent-ils gérer ça avec leurs enfants ?
Je pense toujours avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de recul, et toujours en le nommant le plus clairement possible. Après, c'est vrai qu'il y a des enfants qui pourront être plus marqués que d'autres par ces images, mais je pense que quand la parole circule, quand les parents sont capables de tenir debout et de gérer ça eux-mêmes correctement, ben l'enfant est quand même aidé.
Et c'est valable aussi pour le personnel politique, on pense à
oui,
ça.
Bien sûr.
Il y en a beaucoup d'ailleurs qui jettent l'éponge après oui. la violence de oui, la vie oui. politique. Ouais. Notamment pour les proches, pour l'entourage, ouais. la famille. Il faut dire les choses, il faut expliquer.
Oui, toujours. Il faut en parler. Il faut laisser l'enfant aussi réagir avec ses propres questionnements. Et puis, vous savez, cette histoire, ça commence très tôt. C'est-à-dire que l'enfant, plus il est construit, plus on le laisse devenir autonome et équilibré, plus il aura de chance après, dans un cas comme celui-là, d'accuser le coup avec une certaine solidité et une certaine stabilité. Donc tout ça, ça se construit avant.
Jean vous dit, faut-il couper un maximum mes enfants des réseaux pour qu'ils ne voient pas les commentaires absurdes ou insultants des gens sur leur maman ? Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, ça rajoute quand même à la oui. complication de cette situation.
Absolument. Ça expose l'enfant à des discours qui ne sont pas toujours intelligents et qui sont permanents et omniprésents. Donc je pense qu'il faut réguler ça. Mais oui, bien sûr, il faut mettre des limites à l'enfant. D'autant plus que souvent, la plupart du temps, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt.
Non, mais il faut quand même les préparer, parce qu'il y a un âge où on ne peut pas les couper, je veux dire...
Non, ça existe, ça fait partie du réel. Mais je pense qu'il faut les éduquer. Déjà, effectivement, il faut que le parent lui-même ne passe pas sa vie sur les réseaux pour que ce soit un modèle pertinent. Et puis, voilà, il faut apprendre à l'enfant que tout ça a une valeur limitée. Et puis, il y a un moment où, effectivement, ça va lui échapper. Mais, donc, il faut toujours jouer le rôle de régulateur. Le mieux possible.
David nous demande comment gérer l'absence d'un parent célèbre, ou pas d'ailleurs, j'ai envie de dire, qui ne peut pas être toujours présent à la maison. On parle de la célébrité, mais ça peut être aussi des métiers qui nécessitent une absence prolongée.
Les militaires, tout ça.
Oui, et puis c'est pas traumatisant en fait, d'avoir un parent qui s'absente à partir du moment où il a sa place, où il est nommé dans la famille, où on sait qu'il est là, il s'absente, il revient, donc il n'y a aucun problème. Alors s'il n'est jamais là, oui, effectivement, c'est une autre configuration.
Et est-ce qu'il faut garder, comme on peut le voir, le lien via les écrans, les enfants qui feraient des visios avec leurs parents qui ne sont pas là, est-ce qu'il faut essayer de conserver de manière quotidienne, ou est-ce que c'est pas si...
Je pense que c'est pas une obligation. Franchement, là, on en fait un peu trop.
C'est bien pour
avant.
Le parent.
Oui,
c'est bien pour le... Oui, c'est bien pour le parent. Notamment, on parle des militaires. Quand on est à l'autre bout du monde pendant 6 mois en mission, ils sont contents, je pense, de faire des visios.
Oui, alors si c'est 6 mois, effectivement,
oui, c'est ça,
là on parlait tous les jours. Tous les jours, c'est pas nécessaire. Oui. Mais d'avoir de sentir qu'on est en lien et qu'au fond, on peut se parler quand on en a aussi envie et besoin, que l'autre va être disponible. Ça, c'est important,
plutôt la
bien sûr.
Oui, c'est
ça.
Tiffaine vous dit faire face à la presse, au paparazzi, c'est parfois difficile pour les adultes célèbres. Comment gérer cette pression avec des enfants ?
toujours de la même façon, c'est-à-dire que c'est le parent qui va donner, qui va être le modèle de la capacité à encaisser ces flux extérieurs. Donc, encore une fois, il faut parler à l'enfant et lui montrer à quel point tout ça aussi, c'est juste un jeu de société, mais que ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Je pense que si, c'est toujours pareil. Si le milieu familial est équilibré, l'enfant ne va pas souffrir de ça. On le voit bien d'ailleurs avec le témoignage de Sophie Tapie.
Mais après, ça dépend des situations, parce que pardon, mais les enfants de Britney Spears, je pense qu'ils n'ont pas vécu tout à fait la même chose. Quoi. Non, mais et là, c'est du harcèlement constant. Donc, ouais.
Mais je pense que déjà, ils sont dans un milieu hyper dysfonctionnant.
Oui.
Avec,
il y a bien un sujet.
Je veux dire, là, il y aurait beaucoup à faire. Donc,
elle a des enfants en plus, Britney Spears.
Mais elle en a deux, mais elle n'a plus la garde.
Ouais. Voilà, donc c'est...
Vous n'êtes pas très people.
Si, son père gérait ses affaires.
Ah non, elle, ça y allait plus sous tutelle.
Non, mais là, on est dans l'extrême de chez... Oui, et déjà, chez Bernard Tapie, c'est déjà un peu costaud.
Oui, mais on voit bien que Sophie n'est pas traumatisée du tout.
Non, elle a l'air équilibrée.
Ouais, tout à fait.
Donc, et vous, Yasmine, vous gérez comment les paparazzis, par exemple?
Bon, écoutez, ça va simplement. Bien. Ouais, mais je les ai habitués très tôt. Vous voyez, même cette mouche me suit partout.
On a une mouche qui nous attaque. Ouais,
c'est incroyable.
Mon conjoint, nous dit Ludivine, est sportif de haut niveau. Mon fils de 3 ans le voit à la télé, le reconnaît, suit toutes ses compétitions. Je ne suis pas célèbre, quant à moi, sera-t-il tout de même fier de moi, sa maman?
Bah non, évidemment.
Évidemment que non, il ne va pas accorder la moindre attention à sa maman.
C'est vrai que c'est dans un couple, oui. En tout cas, ça peut être un sujet aussi.
C'est un sujet aussi entre les parents, c'est-à-dire comment ça se joue entre les deux. Mmh. Est-ce que la mère va se sentir frustrée? Est-ce qu'elle va entrer en rivalité avec son mari? Sinon, si ça se gère très simplement et que chacun assume sa place, ben l'enfant, évidemment, il aura tout autant besoin de sa mère que de son père. Simplement, ce ne sera pas situé au même niveau, ni pour les mêmes valeurs.
Oui.
Mais enfin, la mère, bien sûr qu'elle aura sa place.
C'est normal qu'elle s'interroge. Heureusement.
Mais... Ah, oui.
C'est mignon même. Pascal vous dit, je me demande si quand on est enfant, on réalise vraiment ce qu'est la célébrité. Sophie le disait tout à l'heure, pour elle, c'était sa normalité dès le départ.
Oui, je pense que c'est un truc un peu comme ça, fantasmatique, mais qui est pas... L'enfant ne peut pas se rendre compte de ce que ça implique au quotidien et des conséquences que ça a. Je pense qu'il vit dans un monde où plein de choses lui échappent. Après, c'est sûr qu'il entre en résonance avec une certaine forme de climat un peu agité parfois. Mais moi, je pense qu'il s'en fait une représentation plus très différente selon les enfants. Hein.
À quoi les parents célèbres doivent-ils faire attention et quel comportement adopter pour éviter que leur enfant supporte mal cette célébrité, nous demande Maëlle.
Je pense toujours au fait que les parents doivent traiter ça avec beaucoup de réalisme et beaucoup de justesse. C'est-à-dire ne pas s'identifier, comme je disais tout à l'heure, à l'aspect visible et surtout ne pas se sentir supérieur. C'est-à-dire, c'est un job comme un autre, après tout. Donc,
oui, il inclut cette partie-là, mais oui, ça reste un métier.
Ça reste un métier où il y a des obligations aussi, des bons côtés, des mauvais côtés. Et je pense que quand tout ça est nommé, et on en parle simplement, et chacun, finalement, continue à vivre normalement dans d'autres aspects de sa vie, il n'y a pas de problème. Quoi. Mmh. Ça se passe très bien.
Alors, on pense souvent à la célébrité positive, mais Sylvie vous dit, il y a certains héritages lourds à porter. Je pense aux enfants de dictateurs, par exemple. Comment peut-on s'en détacher? Pas facile tous les jours, j'imagine.
Non, je pense que là, eux auront probablement un travail à faire en psychothérapie, parce que c'est quand même très compliqué d'avoir un parent qui a été à cet endroit-là. Donc, comment on fait pour assumer? Je pense que là, c'est vraiment au cas par cas, mais je pense que ça nécessite... Je pense que ça nécessitera toujours un accompagnement thérapeutique.
Et puis, sans même parler des dictateurs, les enfants de collabos,
pendant la guerre d'Algérie, de manière plus récente.
Il y a un vrai traumatisme. C'est quand même une image de parents très dysfonctionnants et très transgressifs. Donc, on peut avoir beaucoup de honte attachée à ça, beaucoup de culpabilité, alors qu'on n'y est pour rien. Et ça...
Il y a un nom. Souvent, qui fait que...
Qui est entaché de quelque chose. Donc, je pense que encore une fois, il faut en parler, il faut essayer de dédramatiser tout ça et aider l'enfant aussi à se séparer de cet héritage et lui montrer que lui, il n'y est pour rien, il n'est coupable de rien et que, c'est comment il va intégrer l'héritage, c'est vrai que c'est un vrai travail pour lui.
Oui.
On va parler d'héritage avec la question de Blandine. Mon fils de 15 ans est fasciné par son grand-père qui était un grand écrivain. Il aimerait marcher dans ses pas, écrire le même type de roman. Comment le faire pour qu'il n'oublie pas sa propre destinée?
C'est une question intéressante parce que c'est vrai que ça peut aussi représenter une espèce de fantasme, de vie un peu rêvée et idéalisée. Donc je pense qu'il faut tout simplement confronter l'enfant à la réalité du métier d'écrivain, le faire écrire, le soutenir, et puis peut-être l'aider à trouver sa propre voie aussi. Je pense que si c'est quelque chose qui reste important pour lui, il suivra sa voie au fil du temps. Et puis sinon, ça tombera dans les oubliettes et il s'intéressera à autre chose.
Il faut accompagner un projet comme ça, de toute
c'est
façon.
Ça. C'est signifiant. Oui, il faut le soutenir. Il faut l'écouter, il faut l'entendre. On ne peut pas passer ça sous silence. Il faut le prendre au sérieux. Mais aussi en lui montrant que ça va nécessiter un travail. Écrivain, ce n'est pas juste...
Voilà. Contrairement à ce que beaucoup de gens
Oui, c'est ça. Mais ça nécessite un travail.
Merci Juliette Allais, merci à Sophie Tapie, merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à mettre des notes sur les plateformes de podcast. Pourquoi ? Parce que nous, on aime bien quand on a des bonnes notes. Voilà, salut tout le monde.